France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, j'accueille Jean-Christophe Ruffin, romancier qui conjugue le talent et le succès, auteur notamment du prix Goncourt Rouge Brésil, membre de l'Académie française. Il a été médecin humanitaire et ambassadeur de France au Sénégal, toute une vie de voyage, riche en couleurs musicales que nous évoquerons à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Les Sept Mariages d'Edgar et Ludmilla. Jean-Christophe Ruffin à ce micro dans quelques instants. Mais puisque ce mois de mai nous réserve un temps de chien, allons d'abord nous réchauffer sous les palétuviers.
Ce fruit défendu vous est donc inconnu. À cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril?
Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu veut rattraper, vois-tu, tout le temps perdu.
Ah, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose.
Ah, si les palétuviers te font entretiner, je veux bien essayer.
Ah, viens, souffle les pas.
Mais je viens de ce pas et je vais pas à pas.
Ah, suis-moi, veux-tu? Viens en sourcier, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers.
Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pattes, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les vieilles. Ah, ton cœur me semble encore hésiter, cher trésor. Mais je veux tout oser pour un petit tout petit baiser.
Ah merci, je m'éblouis, un baiser c'est exquis. Mais dès qu'il l'aura pris, je veux être pour lui l'objet du mépris.
Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas dans mes prix, car je suis pris mignonne.
Mon cœur est tout en savoir, je te donne au mouvement, mon corps au fond des bois.
Ah, viens sous les pas.
Je viens de ce pas et je vais pas à pas.
Ah, suis-moi, veux-tu?
Je suis ma tête sous les bons palétuviers.
Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers.
Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers.
Je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les vieilles. Si je comprends bien, tu me veux mon chien sous les grands palais. Tu viens. Palétuviers roses, aimons-nous sous les pattes, prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les vieilles. Si je comprends bien, tu me veux mon chien sous les grands palais.
Un des bijoux de l'opérette française, pas seulement grâce aux deux voix merveilleuses de Pauline Carton et de Koval ici dans l'opérette Toi c'est moi en 1934, mais aussi avec cet arrangement extraordinaire du chef d'orchestre Marcel Cariven. Et d'ailleurs, les duos d'opérette des années folles et l'art des arrangeurs seront tous deux à l'honneur au cours de la grande soirée des 20 ans d'Étonnez-moi Benoît au studio 104 de la Maison de la Radio. Ce sera le 21 mai prochain. Et pour parler de tout cela, je recevrai notamment Jean-Claude Petit, Hugues de Courson, mais aussi le duo d'opérette Franck Le Guérinel et Marie Lenormand, ainsi que l'orchestre des Frivolités parisiennes. Le rendez-vous, vous le savez, c'est donc le 21 mai prochain. Et avec aussi, bien sûr, mes invités d'honneur, Marcel Hamon, Marie-Paul Bell, Hervé Villard, Nicole Broissin, Marie-Thérèse Aurin, Jean-François Kahn, Emeline Bayard, Daniel Collin, Dominique Kravic et Claire Elzière. Un beau plateau donc pour cette soirée d'anniversaire où vous êtes bienvenus dans notre grand studio 104. J'espère qu'il reste quelques places. Vous pouvez aller voir sur le site maisondelaradio.fr dans la catégorie émission publique. Vous êtes tous bienvenus pour fêter ensemble cet anniversaire. Ah, une petite merveille, je trouve, cette fileuse d'Alexandre Tansman, compositeur qu'on n'écoute pas assez souvent et qui fut pourtant l'une des grandes figures de l'école de Paris. C'était l'orchestre de musique légère de l'ORTF, sous la direction de Paul Bonneau, extrait de toute une série de disques que j'ai retrouvés grâce à notre discothèque centrale. Ça s'appelle Musicolor. Je vous en reparlerai en toute fin d'émission.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir un des grands romanciers français d'aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son nouveau livre, Les Sept mariages d'Edgar et Ludmilla, l'histoire d'un couple qui ne finit pas de se marier, de divorcer, de se retrouver. Voilà une belle histoire racontée par mon invité qui a aussi beaucoup voyagé à travers le monde au fil de son aventure d'écrivain, de médecin et aussi de diplomate. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Jean-Christophe Ruffin.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps, je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Le tourbillon, c'était bien sûr Jeanne Moreau en 1962. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Benoît Dutertre.
On s'est trouvé, on s'est retrouvé, on s'est séparé, on s'est retrouvé. C'est un petit peu l'histoire de votre nouveau roman, Les Sept mariages d'Edgar et Ludmilla. Parce que je précise que c'est sept mariages entre les mêmes personnages, hein, qui passent leur temps à se trouver, se séparer et se retrouver.
Voilà, mais ils ne sont que deux. Ils ne sont pas trois comme dans Jules et Jim, mais ils sont que deux. C'est déjà pas mal et ça donne déjà beaucoup de travail, en fait.
Voilà. Mais l'amour, c'est toujours un petit peu ça, au fond. C'est ça que vous avez essayé aussi de nous dire. Avec ce livre-là, c'est pas seulement s'aimer une fois.
Non, mais comme dans Jules et Jim, surtout pour comprendre l'amour, faut l'appréhender dans la durée, quoi. C'est ça qui est beau. Et c'est l'histoire de Jules et Jim, c'est le déploiement d'un amour comme ça dans le temps. Et là, c'est la même chose. C'est sur 50 ans l'histoire de ces deux personnages. Et au fond, leur séparation sont au moins aussi importantes que leur retrouvailles, que les moments où ils sont ensemble. Et ça aussi, c'était peut-être un thème central dans le livre. C'est-à-dire qu'avec la vie qui s'allonge, on se sépare plus, tout le monde le sait, mais on se retrouve aussi plus. Et la séparation, c'est pas forcément une rupture définitive, c'est pas forcément un adieu total. Ça peut être aussi une manière de revenir vers l'autre.
Voilà, mais le jeu pour vous aussi, évidemment, c'est que c'était pas seulement de raconter qu'on se sépare et qu'on se retrouve, mais de ponctuer ce récit, qui est un conte aussi, qui a une forme de fantaisie, par des vrais mariages et des vrais divorces.
Oui,
toujours alors, entre les deux mêmes, qui ne cessent pas de se courir après.
C'était pas indispensable, mais en même temps, c'est une manière d'aller jusqu'au bout de la logique, parce que, au fond, ces mariages, ces divorces sont pas des caprices, ils viennent à leur heure, et on les décrit avec, évidemment, leur nécessité. Bon, d'abord, aussi, ils se rattachent à une époque où on ne vivait pas ensemble sans se marier. Bon, ça commence dans
dans les années 50. Hein.
Voilà. Mais aussi, après, il y a des divorces qui peut-être, des mariages qui ne s'imposaient peut-être pas en tant que sacrement. Mais ils traduisent assez bien, je trouve, ce que ces personnages ont en eux d'entier. Quand ils sont ensemble, ils sont vraiment ensemble et ils se marient. Et quand ils se séparent, et ben, ils se séparent vraiment et ils divorcent. Autrement dit, il y a un côté que j'aimais bien chez eux, c'est-à-dire de ne pas faire les choses à moitié.
Voilà. Et comme dans beaucoup de vos romans, Jean-Christophe Ruffin, évidemment, ici, vous nous faites voyager. Sauf que dans la plupart des livres, en tout cas les plus connus, par exemple comme Rouge Brésil, ce sont des voyages dans le temps et dans la géographie. Là, c'est surtout un voyage dans le temps à travers ce monde occidental, cette France notamment, qui s'est transformée depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on les quittera très vieux à l'issue du livre. C'est toute la transformation d'une époque aussi qui est au cœur du livre.
C'est ça, et c'est toute une vie, et ben un peu la mienne d'ailleurs, et je pense celle de beaucoup de lecteurs. Ouais. C'est-à-dire que c'est un moment, disons, saisi, des moments qui permettent de mieux comprendre, au fond, de quoi procède le monde d'aujourd'hui, d'où il est né, et d'où nous sommes partis, parce que ces transformations, comme on les a vécues, on ne les a pas forcément vécues de façon brutale, elles sont insidieuses, mais quand on se replonge dans ces époques-là, on se rend compte de tout ce qui a changé, et je trouve que ça, moi, ça m'a paru être un parcours, personnellement, en tout cas en tant qu'auteur, très poétique, de retrouver le parfum de ces époques, et peut-être aussi...
Ça commence dans une voiture américaine, juste après la guerre, et ça finit aujourd'hui.
Ouais, maintenant. C'est pas une voiture... Enfin, c'est une voiture française, mais qui imite les voitures américaines.
Style américain, pardon. Voilà, redites-moi le nom. Là,
c'est une Simca Marley. Voilà. Simca, à l'époque, avait essayé de copier un peu les voitures américaines, c'est-à-dire de faire des mauvaises bagnoles qui ressemblaient à des baignoires, en fait, un peu. Et elle portait des noms de châteaux, parce qu'à l'époque, il fallait quand même mettre un peu de noblesse dans tout ça. Donc, il y avait la Versailles, il y avait la Chambord, et il y avait la Marly.
Voilà.
Et la Marly, c'est là-dedans qu'il voyage.
Et donc, au début du livre, Edgar part avec des amis visiter l'Union soviétique. C'est là qu'il va rencontrer Ludmila en Ukraine. On va revenir évidemment à tout ce récit à travers ces deux héros qui sont en plus des personnages positifs et sympathiques même avec leurs défauts comme souvent dans vos livres. Vous aimez bien ça, Jean-Christophe Ruffin?
Oui, parce que j'ai fait un autre métier. Moi, mon métier d'origine, c'est la médecine. C'est un métier dur qui vous met en contact et qui m'a mis en contact très tôt parce que j'ai passé à l'internat de Paris, j'avais 23 ans, donc avec des réalités difficiles, quoi, qui sont celles de la souffrance, de la mort. Ouais. Et quand j'ai décidé d'écrire, c'était pas pour retrouver ça. Et c'était même pour ne surtout pas retrouver la tragédie, la mort. Ou tout au moins, si on retrouvait des choses difficiles, c'était pour le faire en les surmontant. Il y a cette envie de bonheur qui reste quand même une idée neuve, malgré tout, parce qu'au fond, en littérature en particulier, où le malheur a beaucoup plus de place, moi, je suis entré dans la littérature en décidant d'y être heureux. Voilà. Et peut-être de donner un peu de bonheur aux autres aussi.
Et nous y sommes heureux avec vous, Jean-Christophe Ruffin. Alors nous, on va faire notre petit voyage, mais en chanson, pour remonter un peu à quelques épisodes de votre propre histoire.
Couché dans le foin, coucou, 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 couché dans le foin. Il ne faut pas que je vous cache que j'eus toujours la sainte horreur des vaches. Dans ma famille, c'est un tort. Hélas, le métier de toréador n'a jamais été notre fort. J'aimerais mieux qu'on m'injurie, qu'on me pendou, qu'on m'expatrie, plutôt que de toucher un pis de ma vie. Je suis ainsi, tant pis, mais c'est dommage.
La fille de la fermière est charmante et on a le même âge.
Par bonheur pour les amoureux,
il est au grand air d'autres jeux,
des jeux que j'aime davantage, que j'aime davantage. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin, on se fait des aveux et des grands serments et des vœux, on a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse et l'on se trémousse. Ah, que la vie est douce, douce. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Vous connaissez des femmes du monde
qui jusqu'à 80 ans restent blondes
et qui sont folles de leur corps. Elles veulent séduire tous les toréadors
qui eux n'en veulent qu'à leur or.
Il faut des lumières tamisées
et des tentures irisées pour cacher sous leurs baisers leurs appâts trop fusés. Eh bien tant pis, mais c'est dommage.
Quand on est vigoureux, quand on s'aime et qu'on a le même âge,
tous ces décors sont superflus.
Des canapés, il n'en faut plus.
Je ne fais plus l'amour en cage. Gardez, gardez vos éclairages. Touchez dans le foin avec le soleil pour témoin. Un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. On s'embrasse et l'on se trémousse. Ah, que la vie est douce, douce. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin.
Seul pour témoin.
1931, ça ne nous rajeunit pas, Jean-Christophe Ruffin. Oui. Mais néanmoins, vous avez le 78 tours, vous ne l'avez pas acheté à l'époque.
Non, j'ai le 78 tours avec l'interprétation de Mireille. Et donc, effectivement, ça me ramène à cette enfance où Jean Nohain, donc auteur, si j'ai bien compris.
De la chanson, oui.
On l'avait rappelé de la chanson, faisait une émission à la télévision qui s'appelait 36 chandelles. Voilà, je regardais quand j'étais.
Et vous regardiez ça?
Ah oui, je regardais ça. Bah, vous savez, il n'y a pas beaucoup de choix. On n'est pas avec une chaîne.
Oui.
Moi, j'ai vu arriver la télévision. Je me souviens, la première émission qu'on ait vraiment suivie, c'était le départ de Coty, c'était en 58.
Et l'arrivée de Gaulle. De Gaulle, ouais, voilà.
Sur un petit truc qui est ouvert avec des petites lignes blanches qui sautaient, qui était une télévision. Voilà.
Il faut dire aussi qu'à Bourges, dans les années 50, il n'y avait pas tant de choses à faire, peut-être non plus. Hein.
Vous avez tout compris. Ouais. Oui, c'était une ville qui avait connu l'histoire,
oui.
Qui avait même connu des heures vraiment tragiques, et notamment récemment, puisqu'elle avait été le lieu de passage de la ligne de démarcation entre zone occupée et zone libre.
Oui.
La ligne passait à quelques kilomètres de la ville. Et donc, évidemment, c'était très, très sensible ce qui se passait là-bas. Il y a d'ailleurs eu un très beau livre de Tsvetan Todorov là, qui a disparu récemment, qui s'appelait une tragédie française, qui racontait l'histoire de la libération d'un petit village du coin. Et donc, il s'était passé des choses, mais évidemment, il ne se passait plus rien.
Il ne se passait plus rien. Et vous grandissiez chez vos grands-parents, hein, ouais. Qui ont donc été un peu vos éducateurs.
Oui, enfin, ils ont essayé.
Ils ont essayé, avec quand même un grand-père médecin déjà.
Ouais.
Hein. Mmh. Et puis ils écoutaient des chansons, des souvenirs du poste.
Ouais,
de...
on avait un pick-up, on appelait
un
ça.
Un pick-up, ouais.
Ouais, en bois. Ouais. Mais alors c'était des monuments, c'était des trucs. Enfin, c'était des. Le pick-up n'était pas important, ce qui était important.
Oui, c'était un meuble, joli meuble en bois. Oui, c'est ça.
Vernis, machin.
Voilà. Donc la radio, un petit peu de télévision.
Oui, mais j'ai grandi dans le silence.
Et ça pousse à lire alors.
Hein, oui.
Ça pousse à lire.
Beaucoup, beaucoup. Oui. Et dans l'ignorance de la musique, malheureusement. C'est-à-dire que la musique était très, très absente de notre vie. Mais les sons, pas du tout. C'est-à-dire que, par exemple, le clocher de la cathédrale, au pied de laquelle on vivait,
ouais.
La tourterelle que j'ai retrouvée récemment en allant visiter, revoir la rue de mon enfance, tout ça, et qui est toujours là. Je pense que c'est la même, mais enfin, en tout cas, elle n'a pas bougé. Voilà, tous ces sons-là étaient très, très forts, mais pas de musique.
Très et vous avez, très, très jeune quand même, pensé que vous alliez devenir médecin.
Hein? Bah, surtout, je ne savais pas quoi devenir d'autre parce que je vivais avec des gens âgés, sans aucune expérience du monde et sans toutes les fenêtres qui existent aujourd'hui sur le monde. On ne s'en rend pas compte parce que c'est la télévision, je vous dis, bon, à part 36 chandelles et la piste aux étoiles, enfin, ce n'était pas ça qui vous donnait une idée du monde extérieur. Voilà, donc le seul métier que j'avais sous les yeux, c'était celui... qui n'exerçait d'ailleurs plus beaucoup, de mon grand-père qui avait été médecin.
Qui avait été médecin, voilà. Et donc, ça s'est décidé presque naturellement, au fond, que vous allez suivre cette filière.
Bah, c'est-à-dire que quand j'ai rejoint ma mère à Paris, j'ai quand même commencé à découvrir qu'il y avait d'autres choses,
ouais.
Et à y penser. Et puis, entre-temps, il y a eu un événement qui était la première grève du cœur avec Christian Barnard, vous savez, qui a redonné un coup de jeune à la médecine. Et je me suis dit, la médecine que je voyais à travers mon grand-père comme plutôt quelque chose qui s'apparentait plus à Molière et à...
Ouais.
Et Hippocrate, enfin, c'était un monde encore de clistères et de... Oui, enfin, c'était pas tellement... Et tout à coup, là, avec Barnard, si vous voulez, ça prenait une sorte de modernité extraordinaire.
Ouais.
Et là, je me suis dit, il faut faut y aller. Voilà.
Faut y aller. Entre-temps, vous aviez un peu grandi et peut-être écouté un peu le hit parade ou les premiers les groupes pop qu'on écoutait quand vous étiez de votre génération. Non, pas tellement.
Un peu, mais pas trop, parce que finalement, là encore, c'était beaucoup le silence. C'est très curieux. Et d'ailleurs, je suis très, très reconnaissant d'avoir eu une enfance silencieuse, en fait.
Et la chanson française, et Brassens, par exemple.
Oui, alors ça, oui, ça c'était très important parce que, mais c'est à travers plutôt le poème, c'est-à-dire c'était le poème en chanson. Ouais. Et d'ailleurs, à l'époque, plus que le rock, plus que les interprétations, plus que... bon, ma mère aimait beaucoup le jazz, si vous voulez, Miles Davis, tout ça. C'était, il y avait des disques qu'on écoutait comme le, je sais pas, le Blue Rondo à la Turque, vous savez, les grands de Modern Jazz Quartet, des choses comme ça. Voilà, un petit peu. Et puis, en effet,
la chanson à texte.
La chanson à texte, qui était au fond une sorte de prolongation à travers le temps de l'art oral, en fait, hein, d'une espèce de griot européen que sont les poètes.
Et Gatsby Belza ?
Gatsby Belza, La main à la carabine, le texte de Victor Hugo, chanté par Brassens.
Gatsby Belza, La main à la carabine, chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Doña Sabine, quelqu'un d'ici ? Chanter dans ces villageois la nuit gagne le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma señora? Sa mère était la vieille Mograbine d'Antecara, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Le roi disait en la voyant si belle à son neveu: pour un baiser, pour un sourire d'elle, pour un cheveu, un fendant rouille, je donnerai l'Espagne et le Pérou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Je ne sais pas si j'aimais cette dame, mais je sais bien que pour avoir un regard de son âme, moi pauvre chien, j'aurais gaiement passé 10 ans au bagne sous les verrous. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quand je voyais cet enfant, moi le pâtre de ce canton, je croyais voir la belle Cléopâtre qui, nous dit-on, menait César empereur d'Allemagne par le lit. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Danser, chanter, villageois la nuit tombe, Sabine un jour a tout vendu, sa beauté de colombe, tout son amour, pour l'anneau d'or du comte de Saldagne, pour un bijou. Le vent qui vient à travers la montagne m'a rendu fou.
C'est pas ma place, l'Académie française, et encore une fois, on m'a jamais demandé sérieusement d'en faire partie, et puis ça me gênerait d'en faire partie, quoi. C'est pas sérieux, cette histoire d'Académie française. Un auteur de chansons n'entre pas à l'Académie française. Et puis d'ailleurs, encore une fois, on n'en voudrait pas. Il y a des soldats dans l'Académie française, et je ne vois vraiment pas ce qu'ils y font, là. Je ne pense pas que ce soit leur place.
Jean-Christophe Ruffin, vous qui êtes membre de l'Académie française, qu'est-ce que vous pensez de cette position de Georges Brassens sur le sujet?
Oui, mais manque pas de logique. Non, mais il parle d'une époque, vous savez, il y a eu des modes à l'Académie. Alors après chaque guerre, la Grande Guerre, on a élu des militaires. Je dirais malheureusement, parce que l'un d'entre eux, c'était le maréchal Pétain,
oui,
qui est devenu ensuite le protecteur pendant la guerre, et ça s'est mal passé, comme vous savez. Cela dit, là où il a tort, c'est que, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il y a des auteurs de chansons, Jean-Loup Dabadie par exemple, qui sont présents.
Pourtant, même Traîné, je me rappelle que ça avait fait polémique quand il avait été question de les lire.
Sans doute, mais parce que c'est une autre époque. C'est une époque effectivement plus institutionnelle, mais je sais qu'aujourd'hui, je pense qu'il serait élu. En tout cas, moi, je voterai pour lui.
Voilà, vous voteriez pour lui. Vous pensez que la chanson, vous l'avez dit avant d'ailleurs, est une suite de la poésie.
Oui,
bien sûr.
C'est Troubadour. Et vous voyez, il a mis en musique, moi j'ai énormément aimé ça pendant mon enfance, des poèmes de Victor Hugo, des poèmes de Paul Fort, d'Aragon.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y avait sa propre poésie, de Villon aussi, etc. Mais puis il y avait les autres. C'est-à-dire que non seulement il a contribué à cette création poétique, mais il a donné une sorte de force, en fait, et de vie, en réalité nouvelle, à des auteurs et à des poèmes comme celui-là qu'on aurait peut-être oublié sans lui.
Voilà, et d'ailleurs, il est évoqué dans votre nouveau roman, hein, Les Sept Mariages d'Edgar et Ludmilla, Georges Brassens.
À propos de la non-déclaration en mariage.
Voilà, effectivement, voilà. C'était une des chansons sur le sujet que j'aurais pu passer au début, la non-demande en mariage.
La non-demande en mariage, c'est-à-dire, voilà, et j'ai l'honneur de ne pas vous demander votre main. C'est dans un contexte très particulier, c'est-à-dire que Ludmilla, qui s'est mariée parce qu'elle a été sauvée en quelque sorte par Edgar, qui l'a sortie de l'Union soviétique, qui l'a sauvée, voilà, elle en a marre de devoir toujours, au fond, remercier pour ça. Et elle lui explique que finalement, elle n'a pas besoin, et ils n'ont pas besoin d'être dans ce rapport de dépendance, qui finalement, c'est en n'étant pas mariée peut-être qu'il pourra comprendre qu'au fond, elle a besoin d'être avec lui, mais pas du tout pour de l'argent, pas du tout pour des raisons sociales, mais juste parce qu'elle l'aime, tout simplement. Et donc, cette chanson représente bien ça.
Vous avez même failli la reproduire dans le texte.
Oui, je vais la reproduire, mais alors là, c'est l'enfer, c'est tellement cher.
Ah, pour quelques lignes de Brassens, ah oui, il faut payer.
À quelques lignes de Brassens, il faut payer tout le poème, il faut changer, et puis il ne faut pas de forfait. Si votre livre se vend plus, il faut repayer. C'est un cauchemar, je pense que Brassens, qui ne doit pas le savoir, se retournerait dans sa tombe, et c'est vraiment dommage.
Entre-temps, en tout cas, vous, Jean-Christophe Ruffin, vous avez fait donc votre internat de médecine. C'est drôle, vous parliez tout à l'heure de la médecine de votre grand-père et de la médecine moderne, mais finalement, vous avez peut-être quand même été un tout petit peu déçu par aussi le côté très technique, justement, de cette nouvelle médecine, et c'est ça qui vous a poussé assez rapidement aussi à vous tourner vers la médecine humanitaire.
Oui, parce que je me suis rendu compte que, en effet, j'arrivais à une époque comme ça où la médecine était devenue, et tant mieux d'ailleurs, une science, où elle était devenue, il y avait une véritable efficacité de la médecine, avec des médicaments, avec des opérations, etc., qui rendaient les choses très efficaces, ce que mon grand-père n'était pas. Mais du coup, il y avait un peu mal donne, parce que moi, j'avais choisi ce métier aussi en référence à ce qu'il avait été, c'est-à-dire une discipline humaine et même une branche qu'on appelait des humanités à l'époque. Pour être médecin, il fallait maîtriser le grec, le latin. Rabelais était devenu médecin parce que c'était un lettré. Et tout à coup, on a considéré...
D'un coup, c'était les maths uniquement, quoi.
Et voilà, c'était fini. C'était fini, ou presque. En tout cas, la dimension littéraire avait disparu. Voilà. Et puis, la dimension d'engagement aussi que j'ai recherché ailleurs, parce que en tout cas de l'époque de mon grand-père, j'avais retenu que le médecin était en première ligne. Dans la guerre de 14, mon grand-père, il coupait des bras, des jambes dans les tranchées, si vous voulez. Enfin, dans les ambulances qu'on appelait les postes de soins au front. Il avait même été blessé, d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, moi, ce qu'on me proposait comme avenir, c'était d'être fixe dans le même couloir d'hôpital, etc. Et ce qui est passionnant, hein, moi, j'ai beaucoup de respect pour mes amis qui ont choisi ces carrières-là, mais moi, c'était pas ma vie.
Voilà, et donc à la suite d'une coopération en Tunisie, vous avez fait de l'accouchement même.
Oui, ça, c'est une erreur de militaire. je suis un peu comme Brassens là-dessus, je suis un peu réaliste par rapport à la... Je ne suis pas antimilitariste, mais disons que je sais que parfois il se trompe. C'était Kessel qui racontait qu'il avait, quand il s'est engagé, il avait mis journaliste. Et les militaires ont compris journalier, ce qui fait qu'il a cassé des cailloux pendant 6 mois. En moi, ça ne m'est pas arrivé, mais on m'a fait... Je voulais faire de la neurologie et finalement, j'ai fait des accouchements.
Des accouchements. Et puis, vous êtes parti en Éthiopie. Alors là, pour le coup, pour Médecins sans frontières. Et ça a été, je crois, un choc très important. Je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes à l'Éthiopie, parce qu'on va écouter une chanson éthiopienne, mais c'est le pays, vous avez dit longtemps, où vous revenez toujours, d'une certaine façon.
Pour moi, c'est le pays de l'ailleurs. C'est-à-dire que je crois, et j'ai observé ça chez beaucoup de volontaires, de gens qui ont travaillé ou qui sont engagés dans l'humanitaire, et qui ont pu ensuite connaître beaucoup d'autres pays. Il y en a toujours un, qui est souvent le premier, évidemment, qui constitue l'ailleurs. Voilà, l'ailleurs a toujours un visage pour chacun de nous. Et pour moi, c'est l'Éthiopie. Pour d'autres, ce sera l'Afghanistan. Pour d'autres, ce sera le Cambodge, le Mexique, je ne sais pas. Pour moi, c'est l'Éthiopie. Parce que d'abord, c'était ce pays où j'ai découvert quelque chose d'à la fois incompréhensible, parce que loin, très différent de nous, et en même temps avec une sonorité familière, c'est-à-dire l'impression d'avoir devant soi les paysages de la Bible, tout simplement.
L'Abyssinie.
L'Abyssinie,
oui, c'est ça.
Les abysses.
C'est l'ancien terme, il faut dire.
Ouais,
c'est aussi le titre de votre premier roman, L'Abyssin.
Parce que l'Abyssinie, sont des hauts plateaux. Ouais. Donc vous avez l'impression d'être dans une plaine. En réalité, vous êtes tout près du ciel. Les nuages sont au ras du sol. Et le relief, en fait, ne se dessine pas vers le haut, mais vers le bas. C'est-à-dire qu'il y a à certains endroits, tout d'un coup, des vallées qui se creusent dans les plateaux, des vallées très 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 profondes, au fond desquelles il y a souvent d'ailleurs une espèce de brume, tellement c'est lointain. Et puis, au fond de ça, vous avez des rivières ou des cours d'eau avec des palmiers, etc. Donc le relief est en creux, et c'est là que vous vous rendez compte que vous êtes très haut.
Vous avez entendu beaucoup de musique en Éthiopie, aussi bien de la musique villageoise que de la musique urbaine.
Oui, l'Éthiopie a une particularité, c'est que c'est un pays qui a créé une forme de jazz très, très, très ouais. particulière. Hein, qui
est... Mahmoud Ahmed, qu'on va écouter,
voilà,
je crois, dans un instant.
Mahmoud Ahmed, qui était un peu l'origine de tout ça. Maintenant, évidemment, ça s'est énormément développé et le jazz éthiopien est très reconnu dans le monde entier. Puis il y a la diaspora éthiopienne qui l'a aussi cultivé. Mais c'est un pays, alors là, où la musique est très importante parce que, d'abord, c'est un pays orthodoxe et dans lequel les églises chantent les psaumes. Donc, si vous voulez, vous avez, comme en plus, il y a une compétition religieuse en ce moment entre islam
et
christianisme. Ouais. Vous avez les muezzines d'un côté qui crient dans les minarets et de l'autre côté dans les cathédrales, vous avez les moines qui braillent et qui chantent des psaumes, ce qui fait que c'est souvent un peu difficile de dormir.
Vous aimez Mahmoud Ahmed ?
Moi, j'aime. C'est un monument, quoi.
Bon, je vous demande pas de traduire Jean-Christophe Ruffin, mais un petit peu quand même. Vous connaissez la langue, vous venez de m'apprendre
le nom
de la langue éthiopienne.
Ouais, c'est de l'amharique.
L'amharique, voilà.
C'est de l'amharique. Mahmoud Ahmed est un chanteur qui chante en amharique, bien sûr. Et ça, donc, voilà, je reconnais quelques mots, je ne parle pas couramment. C'est une langue très, très intéressante, c'est une langue qui est à la fois couchitique et sémitique. Donc il y a des racines à trois lettres, comme dans l'hébreu ou l'arabe, et puis les racines à deux lettres qui viennent plutôt du monde africain, du monde couchitique.
Il faut dire que donc l'Éthiopie a été pour vous un double point de départ, on peut dire un point de départ littéraire, puisque, je le disais, votre premier roman, L'Abyssin, qui a eu, je crois, beaucoup de succès d'ailleurs tout de suite, en 1993, était un livre qui, évidemment, revenait sur l'histoire de l'Éthiopie. Et puis, vous avez rencontré aussi l'amour en Éthiopie, et vous êtes marié avec une Éthiopienne. Mm-hmm. Plusieurs fois, comme dans votre livre.
Eh oui. Bah, c'est-à-dire que...
Trois fois,
oui. Le peuple éthiopien est très beau, les Éthiopiens sont très beaux, les Éthiopiennes sont très belles. On revient pas indemne de ce pays. La plupart des gens qui y vont sont très bouleversés par ce qu'ils y trouvent. Et pas du tout parce qu'on s'attend à y trouver. C'est-à-dire que il y a cette image de pauvreté, de famine qui colle à ce pays. Alors qu'en réalité, c'est un pays extrêmement riche, en tout cas culturellement. Voilà. Et donc, en effet, moi, j'ai été à des périodes difficiles. J'étais au moment de la guerre civile, la famine, etc. Mais tout ça portait sur des petites régions d'un pays qui, par ailleurs, est très vaste. Donc, si vous voulez, moi, j'étais dans la capitale, souvent, et c'est là que j'ai rencontré ma future femme. Alors, ce qui était le plus pénible, c'était la dictature de Mengistu, c'est-à-dire communiste, enfin, avec le soutien de l'Union soviétique. Et c'est un pays communiste, quoi, en gros. Ouais. Enfin, mais qui essayait d'être communiste, mais qui résistait, évidemment, à ça, parce qu'il avait une structure impériale qui était encore toujours très forte. Mais enfin, une soviétisation qui était quand même pénible.
Alors vous avez fait comme Edgar avec Ludmila, vous l'avez d'abord épousée pour la sauver, et puis ensuite vous vous êtes réépousée uniquement par amour.
Oui, ben c'est vrai, non, mais c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que j'ai connu ces ambiguïtés où, après avoir rencontré quelqu'un dans des circonstances comme celle-là, Edgar et Ludmila, ils se rencontrent aussi en Union soviétique, mais en Ukraine. Et quand vous avez devant vous quelqu'un pour lequel vous ressentez à la fois une très grande attirance et en même temps, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez incapable de l'aider, de faire quelque chose.
Alors, vous êtes dans une situation très difficile.
Très difficile. Voilà. Ça déclenche quelque chose de très très fort, c'est-à-dire un mécanisme de, une volonté au fond de salvation comme ça, qui est à la fois très belle et très dangereuse, très dangereuse. Parce qu'évidemment, le jour où vous arrivez à vos fins, c'est-à-dire vous avez fait sortir quelqu'un de ce pays. Vous avez construit un couple, d'accord, mais sur des bases qui sont difficiles à tenir, très inégalitaires.
C'est ça qu'il faut se remarier une deuxième fois pour de vrai, voire une troisième fois.
Il faut ou il faut pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai fait, oui.
Il y a aussi une chose qui ressemble un petit peu à votre histoire avec le mariage, Jean-Christophe Ruffin, c'est votre histoire avec l'humanitaire. Vous avez finalement pas mal de fois, vous êtes marié, vous avez divorcé avec Médecins Sans Frontières notamment, et avec aussi ce monde de la médecine humanitaire, on pourrait dire.
Ah, parce que, ouais, mais ça, je suis pas le seul, parce qu'en réalité, dans l'humanitaire, tout le monde s'est toujours copieusement engueulé, parce que c'est un monde de passion. Hein. Ouais. Les gens qui font ça, enfin qui faisaient ça, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu plus bureaucratique, institutionnelle, mais moi à l'époque où j'ai rejoint ces organisations, elles étaient complètement inexistantes, on peut dire. C'était tout à fait le début. Hein. Moi, Médecins Sans Frontières, je connais, c'était grand comme ce studio, quoi. Et donc, on y mettait le temps dont on disposait, mais qui était au fond son temps personnel, donc évidemment sa passion, et évidemment on s'engueulait. Voilà. Et on avait en plus cette culture 68arde, si vous voulez, puisque c'était quand même la génération des post-68ards ou des 68ards, qui avait souvent, c'était pas mon cas, mais les autres, fait des passages dans des mouvements politiques.
D'extrême gauche, en général.
Toutes les variantes. Il y a aussi des chrétiens, des mouvements catholiques. C'est-à-dire, enfin, il y avait différents groupes. Évidemment, chacun mettait ses passions. Et donc, forcément, il y a eu des ruptures, il y a eu des divisions. C'est le moment où Kouchner est parti, il a créé Médecins du Monde, etc. Enfin, bon, il s'est passé plein de choses.
Et le Brésil, alors, il est arrivé comment dans votre vie?
Alors, encore une fois, par hasard. C'est-à-dire que j'avais travaillé avec Claude Malhuret quand il était secrétaire d'État aux droits de l'homme. Puis à la fin, j'avais pourtant pas grand-chose à faire, mais enfin, ils ont voulu me récompenser en me disant, voilà, si tu veux faire une expérience dans la coopération d'État public, parce que moi, je connaissais que les ONG, j'ai dit, d'accord, on m'a envoyé au Kenya, comme conseiller culturel et de coopération. Malheureusement, l'ambassadeur n'a pas voulu de moi, parce qu'il ne voulait pas d'un médecin, et surtout pas d'un médecin qui avait une formation psychiatrique. J'ai compris pourquoi quand je l'ai rencontré, d'ailleurs. Donc, finalement, il a refusé, et du coup, j'ai dû choisir un deuxième choix, ce que plus personne n'avait pris. Et il ne restait plus que trois postes, notamment, et notamment celui de Recife, au Brésil, qui était passionnant, mais tout petit poste, quoi. D'un point de vue diplomatique, c'était vraiment le dernier des derniers des derniers des postes. Je l'ai choisi et j'aurais pas du tout regretté parce que j'ai découvert comme ça un monde, quoi.
Voilà, on va y faire un petit tour avec Juan Gilberto et le disque avec Stan Getz que je crois vous aimez comme nous tous. Et cette chanson, Corcovado.
Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar. Floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Um cantinho, um violão.
amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci que é felicidade, meu amor.
Stan Getz et Gilberto.
Jean Gilberto.
Voilà, oui. Que vous avez, j'imagine, beaucoup écouté, ouais, ainsi beaucoup. Que beaucoup d'autres musiques quand vous étiez à Recife, déjà, parce qu'il y a toute la musique du Nord-Est aussi,
oui, oui, c'est ça.
Jean-Christophe Ruffin.
Et puis, il y a ce que les Brésiliens appellent la MPB, la Música Popular Brasileira, c'est-à-dire ce que nous, on appellerait les variétés, si vous voulez. Mais la particularité au Brésil, c'est que vous allez écouter un concert de MPB, justement, c'est avec, ouais, un de ces grands musiciens, je ne sais pas, Caetano Veloso ou quelqu'un, et toute la salle, c'est-à-dire s'il y a 2000 personnes, toute la salle chante avec, ils connaissent toutes les paroles de toutes les chansons.
Ouais.
Et les Brésiliens ont ça de formidable, c'est vous déjeuner, voilà, vous êtes avec des amis, j'en tiens à peu près convenablement, et puis à la fin, on pousse les verres, on pousse les assiettes, voilà, et quelqu'un prend une fourchette et un couteau et tape comme ça, un autre va taper sur le rebord de la table, tout le monde chante, il y en a un qui trouve une guitare, et tout le monde chante, et tout le monde sait chanter, c'est ça qui est absolument merveilleux. Donc moi, c'est au Brésil que j'ai compris, un, que je ne savais pas danser, que je ne saurais jamais, parce que la première fille que j'ai fait danser m'a pratiquement giflé en disant « mais pourquoi tant de haine, quoi ?» Et deuxièmement, que la musique pouvait être une culture, quoi, pour tout un peuple.
Voilà. Alors, on l'a dit, l'Éthiopie a été initiatrice parce que vous lui devez non seulement votre femme, mais aussi votre premier roman. Et le Brésil, vous lui devez le Goncourt d'une certaine façon, puisque c'est avec Rouge Brésil en 2001 que vous avez obtenu ce prix un peu plus tard. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'avez écrit, mais quand vous êtes arrivé en Éthiopie ou au Brésil, dans d'autres pays, vous êtes tout de suite dit, tiens, je ferai un livre un peu plus tard, je vais prendre des notes.
Pas du tout, mais je ne prends jamais de notes. Non, c'est des années après, en général, que j'écris les livres.
Il vaut mieux ne pas être sur place.
D'abord, il ne faut pas être sur place. Et puis, je crois beaucoup à la valeur créatrice de la mémoire. C'est-à-dire, je pense que la mémoire ne doit pas être guidée par des notes. Moi, je ne prends pas de notes. Je pense que la mémoire humaine, c'est une mémoire affective, émotionnelle. Donc, elle oublie ce qu'elle veut oublier. Elle conserve ce qui est important, disons. Et puis, elle le transforme. Et quand les choses ressortent, quand vous avez passé... moi, Rouge Brésil, je l'ai écrit à mon retour, enfin plusieurs années après, pendant un hiver à Paris, où il faisait pas beau, il faisait gris, froid, etc. Et là, tout à coup, j'avais besoin de me replonger dans cet univers brésilien, si vous voulez. Et tous ces souvenirs, tout à coup, se sont mêlés à des lectures, à l'histoire, la grande histoire, c'est-à-dire...
Oui, parce que, mis à part la nature et le climat, vous pouviez pas y mettre grand-chose de votre propre expérience, vu que ça se passait tout à fait un autre siècle, évidemment.
Oui, tout à fait. Oui, mais... Si, il y a des choses qu'on peut mettre. C'est-à-dire que l'aventure en Rouge Brésil, c'est l'histoire de la conquête ratée
par
les Français, voilà, de la baie de Rio. Baie de Rio, ils sont installés sur la petite île dite de Villegagnon aujourd'hui. Et puis, ils ont créé une petite colonie qui faisait 400 mètres de long dans une petite île. Et là, ils ont réussi ce tour de France tout à fait français de s'entretuer entre eux, tout simplement. Ils se sont entretués. on les a pas vaincus, on les a pas attaqués, on les a pas battu, rien du tout.
Pour des raisons religieuses.
Voilà, entre catholiques et protestants, sur un truc qui faisait 400 mètres de long, ils se sont entretués et ça s'est arrêté là. Et voilà. Et les Portugais n'ont pas vaincu. S'ils ont pris la colonie brésilienne, tout simplement parce que les Français s'étaient juste anéantis tout seuls.
Ça mérite qu'on y réfléchisse aujourd'hui.
C'est une très belle histoire. Et c'est d'ailleurs pour ça, peut-être, qu'on avait un peu oublié cette histoire. C'est-à-dire qu'on préfère pas trop s'apesantir sur cet épisode de notre histoire, qui est pourtant révélateur.
Vous avez dit parfois, Jean-Christophe Ruffin, que la politique vous attirait pas. Vous avez quand même signalé tout à l'heure que vous avez été conseiller de Claude Maluret. Vous avez été ensuite conseiller de François Léotard. Et puis finalement, vous avez été nommé par Bernard Kouchner ambassadeur. Donc la politique, elle vous intéresse quand même un peu plus que ce que vous dites.
Non, la politique en tant que sujet, si vous voulez, je trouve ça évidemment tout à fait passionnant. Ce que je n'ai pas voulu faire, c'est me présenter à des élections et faire une carrière politique. Au sens où, quand vous entrez là-dedans, il me semble que vous perdez quand même beaucoup de votre liberté, de votre temps d'abord. Et puis, c'était pas mon destin. D'ailleurs, j'en ai à chaque fois gardé quand même un assez mauvais souvenir.
Assez mauvais souvenir. Oui, le cabinet ministériel, c'est pas trop là où vous vous sentez le mieux. Vous préférez la haute montagne.
Oui. C'est-à-dire que j'y étais pas non plus comme un technocrate, si vous voulez, parce que d'abord, je ne savais rien faire. Donc, la seule chose, par exemple, quand j'ai travaillé avec François Léotard, je m'occupais des opérations de maintien de la paix, mais on m'employait à des choses beaucoup plus banales. En tout cas, par exemple, quand il y avait des prises d'otages, des choses comme ça, pour les négocier, des choses, on m'envoyait. Ouais. Et parce que peut-être qu'ils pensaient que j'avais un certain, je sais pas, un talent de contact, j'en sais rien. Mais j'étais pas du tout un homme de dossier, moi, pas du tout, puis je le serai jamais.
Et alors donc, oui, je le disais, vous avez aussi été nommé ambassadeur, alors un peu plus tard, par Bernard Kouchner, en 2007 au Sénégal. Et alors là, c'est intéressant parce que c'est aussi un autre voyage, puisque votre vie, on l'a vu, est faite de voyages, vers l'Afrique francophone, ce qui était évidemment une toute autre Afrique que celle que vous aviez connue à vos débuts.
Ah oui, très différente. Mais ça, j'ai l'habitude parce que j'ai toujours su et dit et essayé de faire comprendre que l'Afrique n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y a des Afriques très différentes les unes des autres. Ça qui est passionnant. C'est un continent qui est, qui est très riche, très, très, très divisé. Enfin, il y a des constantes, bien entendu. Il y a une histoire africaine d'ensemble, mais qui est faite aussi, d'ailleurs, des mêmes oppressions, mêmes... Mais il y a des particularités. Et c'est vrai que le Sénégal n'a pas grand-chose à voir avec l'Éthiopie.
Mais je veux dire, pour un Français, c'est d'une certaine façon moins dépaysant. Il y a une familiarité historique.
Oui, et c'est d'ailleurs... Ce manque de dépaysement est très dangereux, parce que le risque est de penser qu'on est chez soi.
Voilà. Ah oui, c'est ça.
Et en fait, il y a une proximité culturelle. Le Sénégal... était fortement marqué par la présence française. Ça a été la porte d'entrée de la France, on peut dire, en Afrique. Il y a un attachement très très profond à la France, à la langue française. Il y a une histoire commune, Senghor, etc. Bon, voilà. Mais c'est un autre pays. Oui, c'est un autre pays. Il faut le savoir, il faut le comprendre.
Vous pouvez nous dire un mot du monastère de Cœur Moussa au Sénégal, où on fait de la musique, entre autres.
Ouais. C'est un monastère catholique, donc, bien entendu, qui s'est spécialisé dans le grégorien, le chant grégorien, avec des instruments africains. Et les moines qui sont là-bas, qui étaient au départ des Français, puis qui ensuite se sont beaucoup africanisés, aujourd'hui c'est essentiellement des Sénégalais, sont de grands musiciens et ils ont adapté certains instruments africains pour leur donner une sorte de rigueur qui permette d'avoir, comment dirais-je, une sorte de certitude des notes qu'on joue. Par exemple, la kora, qui est un instrument à cordes, avec je ne sais plus combien, de 24 cordes, je crois, qui est un instrument typiquement africain, a été adapté par les moines de Cœur Moussa, qui fait que chaque corde, si vous voulez, joue une note précise, ouais. Alors que la kora africaine est plus souple, je dirais, d'ailleurs, ouais. Dans son jeu. Je crois qu'il n'est pas, je ne joue pas de kora, Dieu sait que je suis ignare, et je le regrette beaucoup, d'ailleurs, en musique, mais je crois avoir compris que la kora, disons, des moines, permet de jouer à partir d'une partition écrite, alors que les Africains qui utilisent la kora, comme Abla Sissoko, par exemple, sont de grands instrumentistes de kora aujourd'hui, jouent comme ça.
Alors on va écouter peut-être un extrait justement d'un office religieux de Cœur Moussa. C'est un canon pour deux kora que je trouvais très très beau et je vous remercie de me l'avoir fait découvrir. Le monastère de Cœur Moussa, un très beau canon donc pour deux kora de ces moines bénédictins du Sénégal. Voilà, pays où vous avez passé aussi un séjour qui nous a valu aussi d'ailleurs votre avant-dernier livre, qui est un livre qui se passe donc aussi en Afrique de l'Ouest, même si c'est pas au Sénégal, mais j'imagine que c'est un peu aussi cette expérience qui l'a nourri, Le Suspendu de Conakry, prix Arsène Lupin, entre autres. Et que là encore, vous avez écrit après avoir quitté l'Afrique.
Toujours, toujours. Moi, je trouve que c'est un peu comme les vaches. Moi, je suis un ruminant. J'ai besoin que les choses soient digérées et reviennent comme ça, et reviennent sous une autre forme. Mais je pense que là, c'est la mémoire qui crée chez moi, vraiment.
Mais alors, tous ces livres, on l'a dit, Jean-Christophe Ruffin, ils sont liés à vos voyages. Votre dernier roman, Les Sept Mariages d'Edgar et Ludmilla, il n'est pas lié à des voyages, il est lié à quoi? À une envie aussi, peut-être, de parler un peu de vous-même à travers des personnages de fiction, enfin de vous inspirer en tout cas de choses de votre vie et, ou de raconter la transformation de la société depuis un demi-siècle.
Peut-être, mais moi j'ai pas de but quand j'écris un livre.
Comment ça commence ?
En fait, je suis ému, si vous voulez, surtout par l'envie de suivre des personnages. D'abord de les créer, puis de les suivre. Et là, en l'occurrence, je les suis sur 50 ans, c'est-à-dire pratiquement toute leur vie, quoi, leur vie ensemble. Je me suis jamais fixé un chiffre en me disant, voilà, ils vont se marier 3 fois, ou 6 fois, ou 7 fois, etc. J'ai ajouté le 7e mariage pour des raisons un peu de parce que ce chiffre 7 est le chiffre des comptes, c'est le chiffre, au fond, qui donne à tout ça sous forme de clin d'œil, y compris au titre, qui montre au lecteur qu'on lui raconte une histoire particulière, mais qu'au fond, elle est universelle, et que ce qui compte, ce n'est pas le détail pratique de ces mariages, mais leur succession, et que peut-être aucun de ces mariages n'existe, si ce n'est celui qui peut-être les réunira un jour dans l'au-delà. Voilà.
Mais l'histoire, elle s'invente, j'ai envie de dire, au fil de la plume, ou vous savez quand vous commencez, où est-ce que vous allez aller, ou chaque jour, vous savez exactement quel nouvel épisode va...
Moi, j'écris pas chaque jour, je travaille 2 mois par an à peu près, parce que je réfléchis un peu à ce que je vais faire, et puis après, une fois que je m'y mets, j'aime bien commencer le livre et le terminer dans un flot
rapide. Quoi.
Voilà, très rapide. Et je n'ai pas de plan très détaillé, mais j'ai des actes comme pour le théâtre, c'est-à-dire premier acte, deuxième acte, troisième acte. Je sais ce qui va se passer au premier acte, au deuxième, au troisième, au cinquième. Voilà. Et là-dedans, ça me permet de savoir à peu près où je vais. Mais il faut garder le désir, en fait, de retrouver ces personnages et de leur laisser vous guider un petit peu, parce que parfois on voudrait faire quelque chose avec eux, puis
ils font autre chose. Voilà. Alors, une chose que vous aviez peut-être prévue, c'était que votre héroïne, finalement, serait une chanteuse d'opéra.
Oui, ça, j'y tenais beaucoup, parce que je rends toujours hommage aux gens qui ont les qualités que je désirerais avoir, mais je n'ai pas du tout.
En l'occurrence, la musique, l'art de la musique.
Je suis pas du tout musicien, j'ai pas du tout... C'est terrible, parce que je sais qu'on peut, jusqu'à son dernier souffle, y remédier. Eric Orsena s'est mis au piano l'année dernière.
Bon. Il commence à jouer du Satie.
Mais moi, je sais que si je me mettais au piano aujourd'hui, peut-être dans 10 ans, j'arriverais à jouer au Clair de la Lune, et encore, si vous voyez... C'est une frustration énorme pour moi, et je suis fasciné par les gens qui ont ce talent et cette puissance musicale. Alors, elle en plus, ça correspondait à quelque chose de vraisemblable, parce que c'est une étrangère qui arrive en France.
Donc elle a été sauvée de l'Ukraine, si on peut dire, par Edgar. Voilà. Elle s'installe en France, elle apprend la musique, se marie, divorce, remarie, et soudain, elle va vraiment émerger dans la carrière lyrique.
Parce qu'elle veut d'abord être recueillie à un moment donné dans un foyer tenu par des sœurs. Donc, elle va aux messes, comme ça, mais elle comprend pas grand-chose, elle comprend pas le latin, elle comprend pas le français non plus. Tout ce qui lui évoque pour elle quelque chose de fort, c'est la musique, et le chant. Alors, à un moment donné, elle se propose et elle chante. Son père était musicien, d'ailleurs, avant d'être envoyé au goulag. Et elle chante. Et là, tout à coup, se produit quelque chose de miraculeux, c'est-à-dire... Elle chante tellement bien, c'est tellement puissant ce chant, que pourtant elle n'a pas appris, que le curé, vous savez, au moment de reprendre la parole, là, dans la messe, là, il est groggy, tellement il a entendu quelque chose de puissant, et les bonnes sœurs se disent, mais celle-là, il faut faire quelque chose avec une voix pareille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc elle la confie à une professeure de musique qui va en faire une artiste lyrique.
Une artiste, elle sera révélée au cours d'une représentation d'Aïda où elle remplace Léontine Price, souffrante, et sa remplaçante étant également souffrante, elle n'est que deuxième remplaçante, et un certain nombre de journalistes, dont le cher Philippe Tesson, écrivent, ça c'est dans le roman, des articles dithyrambiques, et la carrière donc de Ludmilla est lancée. Elle chantera Aïda, mais aussi beaucoup d'autres opéras de Verdi, et je vous propose d'écouter La Calasse, parce qu'il en est aussi question dans le livre, dans cette ère de Rigoletto. Thank you. Ludmilla, donc, sur scène dans Rigoletto. Non, pardon,
pas
c'était
Ludmilla. C'était
la Calas. Oui. Mais justement, oui, parce que votre héroïne, Jean-Christophe Ruffin, a un professeur qui, justement, la persuade à un moment d'être plus actrice que chanteuse, d'une certaine façon. Mmh. Et il évoque ce modèle de la Calas qui transfigure ce qu'elle chante aussi par son être, par son personnage. Et d'ailleurs, ce professeur va devenir son amant.
Oui, mais ça n'arrive pas tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, elle est d'abord dressée, quand elle va entrer dans cette carrière lyrique, elle va être dressée de façon très classique, voilà, sur des rôles plutôt tirés du répertoire mozartien ou... voilà, de façon à contenir au contraire tout ce qu'elle peut avoir de force et d'originalité. Et puis elle va rencontrer cet homme qui est un chanteur lui-même brisé littéralement
par
un accident, et qui va la rendre littéralement folle, d'abord folle de désir, d'amour, etc. Mais il va révéler en elle à la fois quelque chose d'animal, désir qu'elle aura d'être avec lui. C'est pas un amour véritablement, c'est plutôt une sorte de combat presque. Ouais. Hein. Et en même temps, ça va lui révéler sa voix, quoi, sa vraie voix, et les rôles verdiens, effectivement, lui correspondront beaucoup mieux.
Voilà, alors, elle s'appelle Ludmilla. Je précise, je ne sais pas si vous le savez, qu'il existe un opéra russe qui s'appelle Rousland et Ludmilla. Ça ressemble un peu à Edgar et Ludmilla, le titre de votre
livre,
Jean-Christophe Ruffin. C'est l'opéra de Glinka.
Alors, vous m'avez appris l'existence de cet opéra parce que mon ignorance abyssale en matière de musique ne me l'avait pas fait croiser, mais par contre, je connais le conte de Pushkin, effectivement, qui s'appelle Rousland.
Voilà, d'où est tiré l'opéra de
Glinka. D'où est tiré l'opéra, voilà. Et effectivement, j'ai choisi ce titre en résonance avec le conte de Pushkin. Si vous voulez, j'ai insisté sur le chiffre 7, chiffre des contes. Oui. Le titre lui-même est la référence à un conte. Alors évidemment, c'est une référence pour les gens comme vous qui sont très cultivés et qui le savent. Tout le monde ne le sait pas, mais peu importe le son même d'un titre évoque un conte quand même, parfois.
Un conte heureux, donc, dans une Europe plutôt prospère, hein, celle des Trente Glorieuses, où Edgar va tour à tour faire des mauvaises affaires, friser l'escroquerie, puis s'enrichir vraiment, etc. C'est aussi cette histoire-là que vous racontez dans les sept mariages Edgar et Ludmilla.
Oui, mais c'est-à-dire que moi j'ai écrit parfois, on a évoqué avec Rouge Brésil, des romans historiques, c'est-à-dire qui se passent dans des passés lointains. Là, il s'agit d'un passé qui est le mien, c'est-à-dire que ces 50 années, hélas, je les ai vécues. Oui. Et donc, ça n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de souvenirs, c'est-à-dire c'est l'évocation d'une époque que j'ai connue. Et donc, si vous voulez, j'ai pas eu besoin de faire une documentation pour tout ça. Et alors, ils sont chacun, elle et lui, au fond, les représentants de cette époque. Donc lui, comme homme d'affaires, n'est pas un maître de forge du 19e siècle. C'est d'un de ces tripoteurs un peu...
Il fait de l'immobilier quasiment, de l'hôtellerie.
Oui, il fait de l'hôtellerie borgne, il fait du dépeçage d'entreprise. Enfin, il achète des médias. Enfin,
vous comparez à Bernard Tapie, d'ailleurs.
Mais c'est cette génération. Voilà. Et elle, comme artiste lyrique, comme diva, elle sort du théâtre. Et ça aussi, c'est cette génération-là, quoi. C'est pour ça que vous parliez de la Calas. La Calas, c'est la cantatrice qui rencontre les media people, comme on dit aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est connue, évidemment, autant par son immense talent de scène et lyrique que par ses frasques, ses mariages, ses caprices, etc. Et puis ensuite, il y a le film, il y a l'arrivée du cinéma, Carmen, Julia Mirrenes Johnson, etc. Et Ludmilla, c'est cette époque-là.
Thank you.
Voilà un peu de Jean-Sébastien Bach revu par Jacques Loussier. Je crois que vous aimez bien Jean-Christophe Ruffin, Jacques Loussier.
Bizarrement, si vous voulez, dans cette enfance très privée de musique que j'ai eue, j'ai été plutôt amené à Bach par Loussier que l'inverse. C'était assez bizarre. Oui, parce que ma mère était passionnée par
le seul.
Ouais, elle était passionnée par le jazz et elle avait une grande admiration. Je me demande si elle n'était pas un peu amoureuse de Loussier.
Oui,
comme ça, hein, de loin, parce qu'elle ne connaissait pas plus que ça. Mais et on avait des disques de lui. Et je trouvais ça très fascinant jusqu'au jour où une amie m'a dit, mais tu sais, Bach aussi c'est pas mal.
En tout cas, Loussier, grand musicien qui vient effectivement de nous quitter, en plus c'était bien comme ça de lui donner un petit coup de chapeau. Jean-Christophe Ruffin, malheureusement il va falloir bientôt nous quitter, mais j'ai envie de vous demander aussi l'écriture de ce dernier roman vous a poussé à aller beaucoup à l'opéra peut-être? Non
hélas non mais je me soigne.
Vous préférez aller dans vos montagnes?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je suis pas...
Vous avez besoin d'air.
J'ai besoin d'air et vous voyez, c'est un immense plaisir, par exemple, à rencontrer la musique quand elle m'est... C'est un peu de la paresse. Quand elle m'est amenée, apportée. Quoi. Par exemple, je sais pas, André Manoukian fait un très très beau festival à Chamonix.
Ouais, en plus, c'est pas loin.
Voilà, qui s'appelle le Cosmo Jazz, etc., où il y a des choses absolument extraordinaires. Qui, là, dans ce cadre de montagne, viennent à nous, d'une certaine façon. Mais c'est vrai que j'ai une espèce de... Voilà, je donne la priorité, moi, à la vie physique, je dirais, et puis aux rêves, et pas assez, vous avez raison de me le rappeler.
Non, mais vous grimpez donc toujours beaucoup.
Beaucoup, hein, oui, bah ouais, je vis là-bas, et je grimpe beaucoup, et j'adore ça, et j'en ai besoin.
Vous avez abordé, au fil du temps, pas mal de genres littéraires, parce qu'on a parlé surtout des voyages aujourd'hui, et de ce qu'ils représentent comme musique, mais vous avez aussi écrit... une uchronie, Globalia, vous avez écrit des romans d'espionnage, etc. Vous avez aujourd'hui envie de vous essayer à des genres nouveaux ou...
Justement, là, je suis en train de mettre un peu la dernière main à un roman qui se passe à la montagne, un roman de montagne.
À la Frison Roche.
Autour de la montagne, oui. Oui, parce que je trouve dommage que depuis des années, la montagne n'apparaisse plus qu'à travers les accidents, vous voyez, quand il y a un hélicoptère qui s'écrase ou quelqu'un qui tombe dans une crevasse, alors que la montagne, dans cette espèce d'aspect charnel, donc, eh bien, c'est un personnage, en tout cas pour le livre que je viens de terminer, là, qui sera publié, je pense, l'an prochain. Il y a une histoire d'amour qui se développe autour de la montagne. Et ça faisait des années que j'essayais de faire ça. Et je suis très content parce que, je ne sais pas si le livre est bon, mais en tout cas, moi, il m'a permis d'aller jusqu'au bout de ce désir.
Et je précise, ça n'est pas si fréquent de nos jours, parce que le traitement de texte, c'est quand même très pratique. Vous écrivez toujours à la main.
Oui, j'écris à la main.
Avec un vrai stylo, du vrai papier.
Exactement. Mais parce que j'écris souvent le matin tôt et je ne suis pas très réveillé. Et la maîtrise d'un appareil, je sais me servir d'un ordinateur, hein, je ne suis pas quand même. Mais pour les gros livres, disons, pour les vrais livres, je trouve qu'on n'écrit pas de la même manière quand on écrit à la main. Et j'ai constaté que dès que j'ai essayé d'écrire ce que je fais pour des articles, des choses plus courtes, ça n'est pas pareil. Donc, la main, disons, me permet une sorte de fluidité et d'ampleur, je dirais, de la phrase que le traitement
machine,
de texte
le clavier,
n'autorise pas.
Eh bien, merci d'avoir été avec nous ce matin, Jean-Christophe Ruffin, à l'occasion de l'apparition de ce nouveau livre. Je vous propose qu'on fasse, pour terminer, un petit tour au Cap-Vert, ça vous irait?
Ah oui.
Par exemple.
Avec Cesarea Évora.
Cesarea Évora.
C'est un pays très très attachant et moi j'adore le monde lusophone sous toutes ses formes.
Pas seulement le Brésil.
Je parle cette langue, j'ai appris cette langue au Brésil, donc au Cap-Vert ils ont plus le standard linguistique portugais, du Portugal qui est moins facile pour... Mais c'est très beau et je trouve fascinant ce petit peuple qui a... comme ça, disséminer sa culture dans le monde entier en laissant, évidemment, les peuples la transformer, ce qui est le cas au Cap-Vert.
Et Macao, vous y allez aussi ?
Je suis allé à Macao. Enfin, je suis plus fasciné par la chanson du Cap-Vert que par les machines à sous de Macao.
Merci Jean-Christophe Ruffin et j'espère à bientôt.
Merci.
Thank you. sabia, gente não está a morrer. Nunca estava mal, ninguém nesse mundo. Só sabia, gente não está a morrer. Nunca estava mal, ninguém nesse mundo. Esse morna, esse sonhinho, a esperança que já confessam que meu bom amor era falso flor. Esse morna, esse sonhinho, a esperança que já confessam que meu bom amor era falso flor. Na despedida, vou chorar te uma gua, vou chorar também. Na despedida, vou chorar te uma gua, vou chorar também. Esse morna, esse sonhinho, a esperança que já confessam que meu bom amor era falso flor. Esse morna, esse sonhinho, a esperança que já confessam que meu bom amor era falso flor.
Césaria Évora, une fleur d'espérance, une chanson de 1992 choisie par mon invité aujourd'hui, Jean-Christophe Ruffin, que j'avais la joie de recevoir à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, Les Sept Mariages d'Edgar et Ludmilla, aux éditions Gallimard.
Thank you.
Et non, ce n'est pas le concert du Nouvel An à Vienne, c'est simplement Étonnez-moi Benoît avec cette jolie polka rapide de Joseph Strauss. Vous avez le petit frère de Johann, excellent musicien. Aussi, ça s'appelle Moulin à paroles et c'était dirigé par l'excellent Willy Boskowski.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et encore quelques petits morceaux, juste pour le plaisir, avant de se quitter. Tiens, je voulais donner un coup de chapeau à un ténor léger que j'aime beaucoup, qui s'appelle les Claude De Vos, qui est né à Saint-Pétersbourg, qui a dû nous quitter parce qu'il a fait carrière quand même plutôt dans les années 40-50. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a disparu, mais je sais qu'il y a beaucoup de disques excellents qui sont sortis à l'époque sous la direction de Jules Gressier. Une excellente Belle Hélène, par exemple, ou encore Les Petites Michues de Messager. On va écouter cet air du Fiancé fixé.
Mon cœur tournait, tournait. Le vent de la tempête sur moi se déchaînait, sur moi se déchaînait. Était-ce l'une ou l'autre, problème désastreux? Ah, pauvres amoureux, quelle angoisse est la nôtre! Enfin, je suis fixé, le sort s'est prononcé, ivresse qui m'enflamme, enfin, je suis fixé, me voilà fiancé, et je vous ai profane, me voilà fiancé, je suis un fiancé fixé. Maintenant je respire, l'orage s'est calmé. J'aime et je puis me dire que moi je suis aimé, que moi je suis aimé. Je possède, cher ange, le trésor de ton cœur et je t'offre au bonheur tout le mien en échange. Enfin je suis fixé, le sort s'est prononcé, ivresse qui m'enflamme, enfin je suis fixé, me voilà fiancé, et je vous ai profane, me voilà fiancé, je suis un fiancé fixé.
Ah, pour moi, c'est l'exemple du ténor léger à la française, idéal dans ses rôles d'opérette, Claude De Vos, ici dans un extrait des Petites Michues sous la direction de Jules Gressier. Et puis, j'ai ressorti pour vous aussi, puisqu'on a beaucoup parlé ce matin de mariage avec Jean-Christophe Ruffin, une chanson très drôle sur le mariage. C'est Michel Arnaud avec Boris Vian dans ce petit chef-d'œuvre d'insolence.
Avez-vous vu un homme tout nu sortir soudain de la salle de bain, déjà chauve et un peu ventru et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots, quand ils sont vieux, ils sont affreux, quand ils sont grands, ils sont feignants, quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas, faites plutôt du cinéma, restez pucelle chez votre papa, élevez des singes, élevez des chats, soyez radeuse, avenue du bois, mais ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur le col, du flageolant dans la guibole? Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se pencher avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent, quand ils sont forts, ils font du sport, quand ils sont riches, ils gardent l'artiche, quand ils sont durs, ils vous torturent. Ne vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas, mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant quatre fois par mois. Ah, la belle vie que ce sera si vous ne vous mariez pas les filles, si vous ne vous mariez pas.
Michel Arnaud, excellente chanson de Boris Vian. C'était donc en 1958, voilà, qu'elle a enregistré Vous mariez pas les filles. Et puis je vous ai parlé de tous ces disques de musique légère que j'ai retrouvés avec le concours de Romain Couturier et de la discothèque de Radio France, Musicolor, une série de disques dirigés principalement par Paul Bonneau avec tous les compositeurs de l'époque, des sérieux, des Landowski, des Dutilleux ou alors encore des spécialistes de la musique légère. Un choix, une mine extraordinaire dont je vous ferai profiter au fil des prochaines semaines. Je vous propose d'ailleurs, pour terminer cette émission, d'écouter justement La journée d'une secrétaire. La journée d'une secrétaire de Pierre Duclos par l'orchestre de musique légère de l'ORTF, dirigé par Paul Bonneau, qui d'ailleurs faisait souvent duo, je crois, dans ses compositions avec ce Pierre Duclos, dont je ne sais pas grand-chose. Mais tout ça est extrait donc d'une série de disques sortis à la fin des années 50, ça s'appelle Musicolor. Là, c'était le volume 1, avec beaucoup, beaucoup de musique légère. Je dis ça pour les amateurs du genre. Il y a par exemple les Tahitiennes de Gauguin, d'Henri Tomasi, une marche de René Chaland, une marche des Farfadets de Marcel Landowski, Chambord par Georges Vamparis, des compositeurs connus et moins connus, même certains qui allaient se tourner plutôt vers une musique plus avant-gardiste, comme Yves Prin qui écrit Don Quichotte contre les moulins à vent. Voilà comment on faisait de la musique légère à la radio à l'époque. C'est une collection qui est conservée précieusement dans nos archives au nord de Paris et dont je vous reparlerai au fil des prochaines semaines. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Swad Boukorsa ainsi qu'Emmanuel Dupuis, réalisation Christine Amado. Et samedi prochain, honneur à un très grand monsieur de la chanson française puisque j'accueillerai à ce micro Charles Dumont. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique où vous avez maintenant rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.